La première partie du culte, généralement, on emploie un autre terme, soit la présidence ou l'introduction. Je pense que ce terme d'introduction n'a jamais été aussi approprié aujourd'hui. Vous allez comprendre. Notre frère Jean-Marc Ausset, pasteur de l'église de Lunel, goûte un repos bien mérité dans les Cévennes. Il lui arrive de temps en temps d'aller prêcher à l'église évangélique libre de Florac. Il m'a envoyé l'historique de cette église. Et voici comment il conclut. Elle a su rester fidèle aux piliers sur lesquels se sont appuyés ses glorieux ancêtres, les Camisards. Soli Deo Gloria. Je crois qu'on a entendu ça. Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura et Solus Christus. Ce sont des mots que vous utilisez tous les jours, n'est-ce pas? D'autres diront, mais qu'est-ce? Alors je pense que c'est une bonne occasion de rappeler les fondements de notre identité chrétienne et de notre foi évangélique. Un petit peu de suspense, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le latin, j'ai mis donc la traduction. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Sola Fide, la foi seule. Sola Gratia, la grâce seule. Sola Scriptura, l'écriture seule. Et Solus Christus, le Christ seul. Quelle est l'origine de ces cinq solas? Ce sont les réformateurs, Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin en France, Ulrich Zwingli en Suisse et d'autres, qui ont exprimé leurs convictions dans ces cinq formules en commençant par sola ou solus, seul. Ils ont exprimé leur différence avec l'enseignement de Rome. Ces cinq affirmations constituent le fondement de notre foi évangélique issue de la Réforme, qui allait différencier sa théologie de celle de l'Église catholique romaine au XVIe siècle. À noter que ces cinq points qui souligne les différences entre protestantisme et catholicisme, étaient déjà fixées, listées par les Vaudois au XIIe siècle. Puisque selon Top Bible, les quatre autres solas découlent de la sola scriptura, nous allons commencer par celle-ci. Et que dit sola scriptura ? L'Écriture seule, la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Sola Scriptura, parfois appelée le principe fondamental de la Réforme, est l'affirmation que seule l'Écriture, parce qu'elle est la parole inspirée de Dieu, est notre autorité suprême, suffisante et absolue pour l'Église. Après avoir suivi des études très poussées, imposées par les supérieurs de son ordre religieux, le moine Martin Luther est nommé professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Bible était lue et commentée dans l'Église catholique. C'est en étudiant et en commentant les épîtres de Paul que Luther perçoit l'évidence réformatrice du sola gratia. Sola gratia, la grâce seule. Le salut de l'homme ne dépend pas des œuvres de l'homme, comme l'enseigne l'Église catholique, mais uniquement de la grâce de Dieu. C'est là la rupture essentielle de Luther qui va être reprise par les autres réformateurs. La sola gratia est pour Luther la condition d'une bonne lecture de l'Écriture. Il ouvre l'intelligence de l'Écriture qui conduit au sola scriptura. Dès le IVe siècle, saint Augustin écrit que la Bible est la règle et la norme suprême. Très bien. Mais il ajoute que c'est l'Église qui définit le sens exact de l'Écriture et qui en donne la bonne interprétation. Luther opère une rupture révolutionnaire en contestant que la Bible et l'interprétation traditionnelle forment une unité indissociable. Il brise cette unité. C'est un des sens de la sola scriptura, la Bible sans l'interprétation de l'Église. Le principe de la sola scriptura repose sur la rupture inspirée de l'Écriture. Comme le dit l'apôtre Paul, toute Écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant à son élève, en quelque sorte, Timothée, dans 2 Timothée 3, lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Pierre ne dira pas autre chose. Il confirme que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs des prophéties. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a donc qu'un seul auteur du texte biblique, le Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu lui-même. D'où la notion d'inhérence des Écritures. C'est-à-dire que les Écritures sont liées d'une manière inséparable et nécessaire à Dieu. Les Saintes Écritures sont la seule autorité par laquelle Dieu exprime sa volonté. Sa parole est la vérité que tout homme doit croire pour être sauvé. Sola Scriptura nous dit que l'Écriture est inspirée, inhérente et suffisante de Dieu. Vous êtes d'accord? Très bien. Au moins, on est d'accord sur le principe et c'est une très bonne chose. Mais voilà, tous ne la comprennent pas de la même manière. Comprends-tu ce que tu lis? Question de Philippe à l'eunuque éthiopien. Administrateur des biens de Candace, la reine d'Éthiopie, donc supposé intelligent, instruit et cultivé. Celui-ci lui répond: comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? L'apôtre Pierre lui-même reconnaissait qu'il y avait des points difficiles à comprendre dans les lettres de Paul et que certains en tordent le sens. Il y a bien des années, nous avions invité Roselyne et Lucien à la maison et Lucien nous avait offert un livre, Lire et comprendre la Bible. Lire et comprendre la Bible demande des efforts et d'utiliser des clés de lecture, notamment sur l'interprétation des textes de l'Ancien Testament, mais pas que. Exemple tiré du livre « Creuser l'Écriture » que nous étudions actuellement, concernant les citations et allusions. Jésus fait la lecture du livre d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il le déroule et trouve l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et il arrête là la lecture. Mais tous attendent. Il roule le livre, le remet au serviteur et s'assit. Et tous, effectivement, ont le regard fixé sur lui, mais et maintenant ? Alors Jésus commence à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » J'imagine un petit peu leur tête. Dans ce passage, Jésus fait deux choses extraordinaires. Il s'applique cette prophétie à lui-même et il dit en quelque sorte « Je suis le Messie ». Et il interrompt la lecture au milieu de la phrase du texte d'Ésaïe que voici. Donc c'est la même chose au début, pour proclamer une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Dans Ésaïe, donc, l'année de grâce et le jour du jugement ont lieu en même temps. Et Jésus semble dire, nous sommes dans l'année de grâce, mais ce n'est pas encore le jugement. Certaines prophéties sont réalisées et d'autres non. Nous sommes toujours dans ce temps du déjà et du pas encore, en attendant le retour du Christ Jésus. Et on retrouve cette difficulté dans les prophéties de l'Ancien Testament notamment. Alors pour illustrer cette difficulté, on emploie une image, celle des sommets d'une montagne. Vous regardez donc tous ces sommets, vous voyez des sommets les uns à côté des autres ou derrière. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les vallées. Et quelle est la longueur, la largeur de ces vallées? On ne les voit pas. Tout cela pour dire que l'Écriture est inspirée, inhérente et suffisante de Dieu, mais que Dieu a pourvu pour sa compréhension, en dotant son Église, d'abord des apôtres, puis des conducteurs, des enseignants, qui, poussés par le Saint-Esprit, nous expliquent, comme Philippe l'a expliqué à l'eunuque éthiopien. Ainsi, si vous estimez que vous avez tout compris, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, venez aux études bibliques, utilisez les bons outils, creusez l'Écriture en état. Et puis nous avons une superbe bibliothèque avec des ouvrages remarquables. Et je tire une petite parenthèse en remerciant Lucien pour le travail remarquable qu'il accomplit. Il y a des très beaux ouvrages. Le second sola est sola gratia. Déjà, nous avons déjà entendu pas mal de choses sur sola gratia. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. C'est ce qu'a découvert Luther en étudiant les épîtres de l'apôtre Paul. Le salut de l'homme ne dépend pas des œuvres de l'homme, comme l'enseigne l'Église catholique, mais uniquement de la grâce de Dieu. Sola gratia, c'est reconnaître que l'intégralité de notre salut est un don de Dieu, comme l'enseigne l'apôtre Paul aux Éphésiens, qui a déjà été lu. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Il précise un peu plus loin En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Dieu est juste. Et il a exercé sa justice par le sacrifice de son Fils. Ainsi, nous sommes justifiés par Dieu et non sur la base de nos œuvres ou de nos mérites, mais uniquement par la foi dans les œuvres de son Fils. Il en résulte que notre salut procède de la grâce et de la grâce seule. Il n'y a point de juste, pas même un seul, dit l'Écriture. Romains 3, verset 4, « Reconnaissons que Dieu est vrai et que l'homme est menteur. » Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Alors, comment être sauvé? Mais maintenant, verset 21, « Mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, on peut peut-être se poser la question, mais pour quelle raison Dieu nous a-t-il accordé sa grâce? C'est encore l'apôtre Paul qui nous répond. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis le verset probablement le plus célèbre de la Bible, Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc par amour, à cause de sa miséricorde et par bonté, que Dieu nous sauve, et non à cause de quelque chose qui viendrait de nous, qui nous rendrait dignes d'être sauvés. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à plus forte raison sauvés de la colère de Dieu. Avons-nous conscience de la profondeur de cet amour? Avons-nous conscience du coût du sacrifice de Jésus? C'est vertigineux. Et avons-nous conscience que nous sommes des pécheurs justifiés et pardonnés? J'ai dit pardonner. Et quand on dit pardon, il y a une notion de repentance. Est-ce que nous avons tous ce sentiment de demander pardon à Dieu? Tout cela pour recevoir sa grâce gratuitement. Cette grâce imméritée. Nous avons lu dans Romains 3 qu'aucun ne cherche Dieu. La bonne nouvelle de Sola Gratia, c'est que Dieu, lui, nous cherche. Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'autre bonne nouvelle de Sola Gratia est que nous avons l'assurance de notre salut, puisqu'il ne dépend pas de nous, pécheurs, mais de l'œuvre rédemptrice de notre Sauveur Jésus-Christ, qui, lui, est sans péché. Une remarque, cependant. Plusieurs textes de l'Écriture mentionnent la notion d'élection ou de prédestination. Sujet délicat et complexe. Et pose la question de la souveraineté de Dieu et de la liberté de l'homme. Les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur la manière de comprendre ce thème de l'élection, et cette doctrine a suscité de nombreux débats. Parmi les évangéliques, il y a globalement deux positions. Celle des calvinistes, c'est-à-dire qui prônent la souveraineté totale, y compris sur le salut, et puis celle des arminiens de Jacob Arminius, c'est l'homme qui choisit. Un bon sujet d'étude biblique, n'est-ce pas? Que nous n'aborderons pas maintenant. Retenons que Sola Gratia affirme que le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce et la grâce seule. Troisième solus, sola, solus Christus. Toujours l'apôtre Paul à Timothée. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Dieu aurait été parfaitement juste et saint s'il nous avait abandonnés à notre péché, à notre condamnation. Mais notre grand Dieu s'est abaissé au point d'adresser une parole salvatrice aux pécheurs que nous sommes, une parole qui a atteint son apogée dans la parole vivante, le Seigneur Jésus lui-même. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean, au premier chapitre, et au verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, et cette parole s'est faite chair. Nous l'avons lu déjà dans Romains 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Dieu et Dieu seul peut nous sauver. Le Père nous a sauvés en envoyant son Fils se faire chair pour nous représenter. En se substituant à nous, il a pris notre condamnation. Christ est mort pour nous. Le Christ a accompli parfaitement la loi que nous ne pouvions pas observer. Et il a porté la colère de Dieu que nous méritons, comme nous l'avons lu. Jésus lui-même a déclaré : ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est dans Matthieu 5, verset 17. Solus Christus est l'affirmation que l'œuvre du Christ et le Christ seul est le fondement sur lequel les impies sont justifiés devant Dieu. Acte 4, verset 2. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Hébreux 12, verset 2. C'est Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Quelle belle transition pour venir maintenant au quatrième sola, sola fide, la foi seule. Le croyant reçoit par la foi seule la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Les réformateurs aimaient parler d'un grand et merveilleux échange. Le Christ a pris notre péché et le châtiment qui en découle sur la croix, et en échange, nous avons reçu la justice parfaite et sans tache de Christ. Non seulement nous avons été pardonnés et notre dette entièrement a été payée, mais l'obéissance parfaite du Christ nous a été imputée. Cela signifie donc que Dieu nous déclare justes vis-à-vis de lui, non sur la base de quelque chose qui vient de nous, mais uniquement sur la base d'une justice extérieure, en dehors de nous-mêmes. Bien entendu, il s'agit de la justice du Christ. La foi est le moyen par lequel nous recevons cette justice extérieure. Par la foi en Christ, nous recevons ce statut bienheureux que Dieu seul peut nous donner. C'est pourquoi Paul avertit les chrétiens que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Christ. Galates 2, verset 6. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme a été déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. J'ajoute que par la foi, nous avons l'assurance de la vie éternelle, avec un corps glorifié, et habiterons avec le Christ dans un monde où le mal n'existera plus. C'est pas merveilleux? Cinquième et dernier soli Deo Gloria. Je crois qu'on a entendu quelque chose là-dessus. Sola Gratia proclame que notre salut, du début à la fin, est obtenu par la grâce et par la grâce seule. C'est pour ces raisons que les réformateurs en sont venus affirmer que seul Dieu est glorifié pour notre salut, selon l'expression « Soli Deo Gloria ». Dieu est à la fois l'auteur et le maître d'œuvre de notre salut en Jésus-Christ. Alors c'est lui seul qui doit être glorifié pour sa souveraine grâce. Il est digne d'être loué et adoré et de recevoir notre reconnaissance. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, et notamment dans les psaumes, où les psalmistes ou les auteurs de ces textes disent leur admiration et louent et adorent notre Dieu. En tant que chrétien, ces sola devraient susciter une attitude de totale humilité, que ce soit dans nos activités séculières ou dans nos louanges le dimanche matin. La gloire revient à Dieu seul. Exemple de ces textes, de nombreux textes dans les psaumes. Dans ce psaume 9, verset 2, David dit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Les cinq solas constituent le noyau de la foi évangélique. Elles ne se contentent pas de présenter l'évangile de Jésus-Christ et d'expliquer comment cet évangile pénètre le cœur du pécheur, mais elles définissent également où réside l'autorité de cet évangile et dans quel but cet évangile est prêché et proclamé. Ces cinq solas opposaient les réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin et bien d'autres aux enseignements de Rome. Mais au cœur de cette division, il n'y avait pas seulement une dispute théologique, mais une véritable proclamation de l'Évangile lui-même. Les réformateurs étaient prêts à sacrifier leur vie pour ces sola, surtout parce qu'ils croyaient que l'Évangile devait être défendu. Je laisse le mot de la fin à l'apôtre Pierre. S'adressant à ceux qui sont étrangers et dispersés, attristés par diverses épreuves, il leur rappelle ce qui fait leur joie et leur espérance. Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Et le verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dans ce verset 21, nous retrouvons les cinq solas. Par lui, par Jésus-Christ, et par son œuvre qui est décrite dans les versets qui précèdent, Solus Christus, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité, Soli Deo Gloria, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, Sola Gratia et Sola Fide. Et ces vérités, nous les connaissons par l'Écriture, Sola Scriptura. L'apôtre Pierre commence en disant « Vous le savez ». Est-ce que nous le savons tous ? Le savez-vous ? Réfléchissez à ces cinq solas. Est-ce que vous avez tout compris ? Est-ce que vous savez que vous êtes pécheur, que vous devez vous repentir ? Et que vous êtes sauvés uniquement par la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Réfléchissez que ces cinq solas soient pour votre salut et pour la gloire de Dieu. Amen.